Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Pour ce nouvel épisode de l'affranchi podcast, nous sommes ravis de recevoir Taous Merakchi à l'occasion de la parution de son ouvrage « Vénère, être une femme en colère dans un monde d'hommes » aux éditions Flammarion. Et je la cite « Après moi, l'herbe repoussera, mais pas les hommes. » Allez, on y va, c'est parti. Bonjour Taous.
Bonjour.
Bienvenue à la franchise.
Merci.
Aujourd'hui, on te reçoit à l'occasion de la parution de Vénère, être une femme en colère dans un monde d'hommes aux éditions Flammarion. Bravo pour cette parution.
Merci.
Qui est quand même assez récente puisque c'est une enfant du mois de mai.
Mars.
Mars ?
2 mars.
Ah mince, je pensais avoir un truc en mode c'est une taureau, mais oui, du coup c'est pour ça aussi, on est en colère, non ? Bon. Mars, c'est
poisson.
Les béliers.
Ah, 2 mars, c'est poisson.
Ah oui, mais 25 mars, c'est bélier. Donc 2 mars, ouais, poisson. Ça marche pas non plus.
Attends, faut voir en fait, à quelle heure ça a été imprimé, parce que ça se trouve, c'est au niveau de l'ascendant.
Ouais, d'accord. Non, je vais pas me lancer là-dedans. On va commencer par un autre début. C'est pas grave. Je m'étais dit que je pouvais tout simplement dire « Bonjour Taous, alors, tu es en colère ?»
Oh oui.
C'était pas mal ça aussi.
Ça
hein.
C'est bien.
Mais en vrai, on en rigole, on est très décontracté, mais la lecture de ton livre, c'est un petit peu quelque chose qui crispe, parce qu'au fur et à mesure de tout ce que tu nous racontes, on se rend compte de toute la colère qu'on peut emmagasiner. Ce qui est un chemin assez éprouvant, autant que je te le dise tout de suite, tu m'as fait pleurer, tu m'as fait rire et tu m'as fait bouillir. Donc, je me suis dit, ok, tout ça amalgamé, on va aller faire une petite séance de sport derrière parce que je ne sais pas qui va prendre, mais ça va être dur. J'étais toute seule chez moi, je me dis, ça ne va pas le faire. Mais donc, ce qui était évidemment important, j'imagine, dans ce livre, c'est quand on l'appelle vénère, c'est que les personnes qui le lisent se le ressentent.
Normalement, ouais. C'est justement ce que je dis à un moment dans le livre, c'est que plus ça va, plus j'ai du mal à comprendre qu'on puisse être conscient du monde et ne pas être en colère. Et ça a limite tendance à m'irriter et à m'énerver, pour changer, de voir les gens qui disent « Non, mais la colère, ça sert à rien. » Ouais, c'est vrai que toutes les révolutions et tous les changements de l'humanité se sont faits vraiment dans la médiation, main dans la main. Tout le monde était très heureux, personne n'a eu la tête coupée. Donc voilà, j'en ai marre de l'hypocrisie autour de l'utilité de la colère.
Est-ce que tu as l'impression qu'on te le dit comme être humain, être humaine en général, ou parce que tu es une femme en colère ?
Les deux. Il y a vraiment deux dimensions. Il y a d'abord effectivement ce truc de « Ah, oh, mais en tant qu'humain, la colère, ça sert à rien, c'est pas constructif, machin », ce qui est encore une fois complètement faux. Et après, derrière, il y a effectivement la deuxième lecture de « En plus, sous-entendu, en plus, tu es une femme, donc tu ne devrais pas ». Là où, pour les mecs, on va leur dire « Bon, je comprends que tu sois en colère, mais c'est pas forcément la solution, mais on va comprendre la colère. Mmh. » On va l'excuser vachement plus facilement, alors que moi, c'est juste « J'ai même pas le droit d'être en colère, point barre. » Alors, encore moins de l'exprimer et encore moins d'agir avec colère. Et bon, bah, voilà, il y en a marre.
Ce qu'on comprend à la lecture de ton livre, qui est quand même construit de manière un peu chronologique, ou en tout cas, tu nous donnes les clés aussi de cette naissance colérique, les points importants de ta vie, etc., pour qu'on comprenne vraiment bien comment en fait, ce livre est né aussi. Tu nous fais ton chemin de vie, comme ça. Mais pour toutes celles qui ne l'auraient pas lu, ton endroit de colère premier, pour toi, ton premier sentiment de colère, c'est apparu quand ? T'aurais ce souvenir où t'as l'impression vraiment d'être née en colère ?
Ah, je suis née en colère. Je pense vraiment que je suis née en colère. Et en plus, c'est terrible parce que ma personnalité principale première, c'est d'être extrêmement joyeuse, enthousiaste. J'adore m'émerveiller. Un truc qui m'excite profondément, c'est la politesse. J'adore la politesse, je trouve ça vraiment érotique. Quand j'ai un échange poli avec quelqu'un, je plane pour la journée en disant « Oh, elle m'a dit merci madame », j'ai dit « Je vous en prie, c'était super !» J'adore ça. Et en fait, j'ai été confrontée très vite à cette frustration de « Je ne peux pas exister comme ça, je ne peux pas faire exister cette nature positive qui est la mienne, parce que tout me met en colère et tout le monde se ligue entre guillemets contre moi et contre tout ce que je représente. » Et me force à être en colère, donc je suis encore plus vénère parce que je préférerais ne pas l'être. C'est pas ma nature. J'ai envie de m'émerveiller, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être positive. Vraiment, moi, je vois un papillon, ça me fait ma semaine, quoi. Je suis super heureuse, j'envoie des textos à tout le monde, tout le monde dit oui, c'est super. Mais j'ai besoin de ce partage-là. Et du coup, j'en veux encore plus aux gens de me mettre en colère. Et j'en veux principalement à mon père, évidemment, bien sûr. Quelle originalité. Parce que c'est de sa faute si je suis en colère à la base. C'est voilà, la source de ma colère, je pense que c'est lui, parce que ma mère est vraiment comme moi, très solaire, très dans le positif et dans l'émerveillement. Et mon père avait cette noirceur et cette envie. Enfin, c'était vraiment Pygmalion, Dr. Frankenstein, on peut mettre n'importe quelle métaphore par-dessus, mais c'était, il m'a fait moi, il m'a vu, il a dit « Ok, ça va être moi en femme ». Et moi, j'avais pas mon mot à dire dans l'histoire. Et du coup, toute ma construction en tant que personne et en tant que femme s'est faite par opposition à ça, devoir toujours tirer dans l'autre sens. Et son amour n'était pas inconditionnel, il était complètement conditionnel. Et du coup, je risquais sans arrêt de le perdre. Je me dis, putain, en fait, je suis une meuf super. Je suis née géniale. J'étais une enfant parfaite. J'étais cool, polie, encore une fois, hyper positive, super sage et très curieuse. Et lui, il a tout gâché, en fait. Et il pouvait pas se contenter de ça. Et ça, c'est là que c'est né, je pense, ça a grandi. Et après, j'ai vu que tout le reste du monde avait tendance à adopter le même genre de comportement. Tous les hommes de ma vie ont fait la même chose que lui. Et bah voilà, maintenant je suis incandescente.
Ce qu'on lit également, et la façon dont tu parles de ta colère, ce serait d'une colère enfantine, adolescente, qui a cette rage et ce bouillonnement très instantané, enfin quelque chose qui peut sortir de nulle part. T'as l'image du volcan, de la lave en fusion. Enfin, en tout cas, si on a besoin de vocabulaire autour de la colère, des flammes, du feu, du brûlant, ton livre est quand même un dictionnaire. Merci beaucoup pour ça, parce que je trouve qu'on ne on manque toujours de vocabulaire sur ce registre-là. Mais en tout cas, quand tu décris ta colère, elle a en effet cette chose, cet endroit, en fait, peut-être un peu fragile aussi. Parce que quand moi, je parle de colère, ou j'ai pu recevoir Martine Delvaux qui a fait Pompière et Pyromane sur le feu, sur comment tout ce bouillonnement, en fait, est une façon des femmes de se réapproprier une certaine vision de la violence, de la puissance, etc. Et j'avais jamais pensé en fait à cet endroit-là de colère adolescente qui instable peut-être aussi.
Ah, complètement.
comment quel regard tu as en fait sur ce toi qui est resté dans ces colères-là? Est-ce que tu penses que au final on l'est toutes un peu dans ces colères adolescentes, ou est-ce que c'est nous qui nous prenons aussi parfois la tête à lire 50 millions de trucs et donc on est beaucoup trop ancré et peut-être beaucoup moins légère dans notre colère, ouais. Ou je sais pas du tout comment.
Bah, je sais pas non plus en plus, parce que même le regard que j'ai sur moi et sur cette colère-là, il change d'un jour à l'autre selon mon humeur et selon l'estime de moi que j'ai à ce moment-là. Et il y a des moments où je me dis waouh, c'est trop épique et stylé, et le lendemain je vais dire mais quelle gamine, vraiment c'est ridicule. Et du coup, c'est ce que j'essaye de dire aussi dans Vénère, c'est de me réapproprier cette version de la colère et faire le deuil de la colère littéraire, intellectuelle et qui fait classe, parce qu'il y a les bons mots, parce qu'il y a le bon comportement, parce que justement ça tranche avec cette attitude hyper hyper posée, hyper élégante, et en même temps je te dis des trucs. Tu vois, Christiane Taubira, elle est tellement classe, en trois phrases, elle te refait ton arbre généalogique, tu t'enterres, c'est fini, tu n'as plus d'estime de toi, tu ne peux plus te regarder dans le miroir. Et ça, c'est un truc qui est vachement valorisé, en tout cas dans les bons cercles, n'est-ce pas? Et moi, j'ai toujours aspiré à ça parce que je voulais être mon père, et que mon père, c'était ça, c'est un énorme intellectuel, et du coup, il avait ce sens de la parole, et il pouvait être très destructeur avec ses mots. Et du coup, j'ai toujours ce truc de, en fait, quoi que je fasse, quoi que j'analyse, quoi que je dise, il y a toujours un moment où je suis en train de courir après mon papa en disant « Tu m'aimes maintenant ?» Et ça me fait chier. Et du coup, là, j'essaye une bonne fois pour toutes d'être Taous Merakchi telle qu'elle est, telle que je suis, telle que j'ai envie d'être, et de me défaire de cette pression avec laquelle j'ai grandi, et qui est aussi nourrie par les médias et tous les trucs qui sortent en ce moment. Parce que tu vois, tous les essais, des essais féministes qui sortent en ce moment, ils sont tous hyper intelligents, hyper intellectuels. Et moi, je me sens vraiment comme la prolo du quartier sur ma table avec « Regardez, moi j'ai mis un dessin !» et je mets de l'Uberlan. Ouais. Et à côté de ça, t'as des titres à rallonge avec des trucs hyper graphiques, trop stylés. Mais vraiment, j'ai l'impression de faire tâche. Et j'essaye de me réapproprier ça et de l'assumer une bonne fois pour toutes parce que c'est ce que je suis. Et si j'essaye de faire autre chose, ça sonnera faux. Et c'est ma hantise de sonner faux. Je ne veux pas. Ça me dégoûte. Mm-hmm. L'idée d'essayer de rentrer dans un moule dans lequel, clairement, j'ai pas ma place. J'ai essayé, ça marche pas. Donc, j'ai plus qu'à assumer. Pas le choix. Et donc voilà, j'ai essayé de le faire avec ça, mais j'ai fait des crises d'angoisse phénoménales pendant l'écriture et même après la parution de « Putain, qu'est-ce que j'ai foutu ? C'est vraiment de la merde. Qu'est-ce que je fais là ?» C'est l'équivalent du catalogue de Cultura à côté du prix Goncourt. Mais ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que je fais là ? Donc voilà, j'essaie de lutter contre ça une bonne fois pour toutes, en étant notamment dans ce genre d'endroit, n'est-ce pas ? Et me dire que j'ai ma place.
Mais d'autant que c'est se réapproprier la colère d'une manière... peut-être beaucoup plus juste aussi, parce que quand on est en colère de manière très froide et frontale, c'est parce qu'on ne veut pas non plus rentrer dans les clichés de l'hystérie, je fais des guillemets pour ceux qui nous entendent, ce côté incontrôlable qu'auraient les femmes en colère, parce que c'est ça aussi l'image qui nous colle à la, au basket, c'est de dire qu'on est des folles furieuses, en fait.
Bah ouais.
Et donc... j'ai l'impression que pour beaucoup, être en colère, mais de manière digne et froide, c'est une façon de toujours être en colère, mais de ne pas se prendre ces critiques-là sur la tête.
Ouais.
Sauf que, et c'est la meilleure des transitions du monde, j'avais très envie de t'entendre lire la toute première page de ton livre. Voilà, où j'ai fait une sorte de cœur dessiné à côté pour dire « oui !» Puisque c'est ça ton introduction.
C'est vrai. Ça faisait pro, ça. Ce livre est dédié aux harpies, aux gorgones, aux ogresses, aux monstresses, aux hystériques, aux camionneuses, aux folles alliées, aux mal baisées, aux chiennes enragées, aux difficiles, aux frigides, aux frustrées, aux racailles, aux garces, aux mégères, aux nunuches, aux chochottes, aux capricieuses, aux femmes fatales, aux veuves noires, aux mentes religieuses, aux marâtres, aux connasses, aux grognasses, aux aigris, aux vénales, aux laidrones, aux garçons manqués, aux vieilles sorcières, aux misandres, aux rabat-joies, aux bourrines, aux dramaturges, aux névrosés, aux divas, aux hormonales, aux disgracieuses, aux vulgaires, aux grossières, aux vicieuses et aux castratrices.
Bon ben voilà, là on a un sacré programme. Mais toutes ces femmes-là, qu'on les imagine, malheureusement, en fait, dans la culture populaire, on nous en a donné... de multiples exemples, mais en vrai, on est toutes, un peu, toutes ces femmes, parce qu'on a toutes, à un moment donné, été insultées, été décrites comme telles dans des crises ou dans des moments même divers et variés, quand tu marches dans la rue, quand tu... voilà, c'est ça. Et je me dis, parce que assez rapidement, en fait, tu fais ce commentaire de « t'as pas une colère littéraire », etc., mais en vrai, c'est peut-être la colère la plus juste que tu nous proposes, puisque c'est celle qui on a que faire, en fait, des mots qu'on pourrait t'attribuer.
Oui, non, mais c'est vrai que c'est une lecture qui me convient pas mal, parce que ça légitimise un peu tout ce que j'essaye de dire. Et effectivement, quand je t'entends le dire, ça me semble vachement logique. De oui, cette colère que j'admire, je l'admire parce que elle m'a été vendue comme admirable par des hommes. Je me suis fait encore niquer, putain. Chaque fois que tu crois que t'as balayé un truc, ça, non, putain, on n'a jamais fini. Et du coup, oui, c'est la colère que j'exprime et que j'incarne, c'est celle qu'on m'a toujours reprochée. Et putain, voilà, tu vois, je vais en parler à ma psy. Tu viens de me débloquer un truc. oui, c'est une évidence quand tu le dis. Bah oui, c'est fou. J'essaye encore de... Bon, bref, je vais pas faire ma thérapie maintenant, mais... mais ouais, donc merci pour ça.
Grand plaisir, la franchise, toujours là. Non, mais après, c'est toujours plus facile quand on est celle qui lit le livre que d'avoir le recul, de se dire « Ah bah peut-être que... » Et en même temps, on parlerait de ma vie, tu me dirais « Et là, il y a encore ce petit blocage. » Donc bon, hein, on est là aussi entre nous pour...
Merci pour cette humilité. Pour...
Cet endroit-là, en fait, de redonner la parole de la colère aux femmes, je trouve qu'il est hyper intéressant aujourd'hui parce qu'on a beau être dans les périodes après MeToo, avoir beaucoup de choses qui ont été dites et qui continuent à se dire, des histoires révélées, des... En fait, malgré tout, on a encore besoin en fait de sentir que la colère existe, qu'on n'est pas encore rassasié en fait. Ouais. Il y a encore ce principe qu'on nous vole des choses, qu'on nous interdit des choses, qu'on n'est pas égal du tout, qu'on nous écrase encore énormément. Et quand on lit ton livre, je pense que ça peut mettre le feu aux poudres, en fait. Sans, évidemment, il y a plein de jeux de mots qui sont faciles, mais parce que en plus, je suis en train de voir le briquet sur ta couverture. Mais je me dis, ça fait partie en fait de ces éléments qu'on aurait envie de transmettre en fait à toutes les femmes autour de nous, juste dans les moments où on n'a plus la foi féministe aussi.
Ouais.
Parce que ça arrive. Oui. Parce qu'on a beau être au taquet, lire plein de trucs, faire partie des manifestations, écouter tous les podcasts du monde, en fait, il y a des moments où on n'a plus l'énergie. Et j'ai trouvé en fait que ton écriture, ta spontanéité d'écriture, les choses, on sent que c'est tes viscères qui parlent en fait, tes tripes qui parlent. Et on a juste envie de faire « mais ouais, mais je prends le livre et je vais en manif et je crie, j'ai chez mon voisin, je crie et je... » En plus, tu égayes en fait tout tes propos d'exemple. En fait, tu montres ce que toi tu fais dans ta vie avec cette colère. Quand tu réagis, quand tu prends la parole pour quelqu'un, quand tu sens quelque chose qui va mal se passer, que t'agis, en fait, ce côté de on est en colère et on agit, je trouve que c'est un endroit hyper précieux et qui, en fait, est une source peut-être de réconfort aussi de toutes celles qui ont l'impression de se faire dominer par leur colère. Parce que ce sentiment-là d'être dominé par la colère, je pense tu le ressens beaucoup. Et notamment, on apprend dans ton livre que ça t'a rendu malade, que c'est des choses qui intimement en fait, t'ont dominé. Ton process d'écriture pour ça, il est né à partir du moment où t'as compris que ça te dépassait, que c'est des choses qui étaient en train de vraiment concrètement te faire du mal et qu'il a fallu sortir, parce qu'on dit bien que l'écriture, ça sort, ça permet, c'est un travail thérapeutique très fort, ou c'est arrivé bien plus tard, au final, dans ton process.
C'est un processus qui s'est fait assez, enfin, sur le long terme, sans même que je m'en rende compte. En fait, ça fait plusieurs années que je suis obsédée par la colère, et en tant que consommatrice de culture, c'est-à-dire que j'ai obsédée par l'émotion colère, je l'ai toujours été, mais là, j'avais envie de consommer du contenu avec des femmes en colère, donc j'ai lu beaucoup de livres avec des femmes en colère, j'ai regardé beaucoup de films avec des femmes en colère, et je lisais plein de citations, des poèmes, des machins, et à chaque fois je me disais c'est cette émotion dans laquelle je me reconnais le plus, et donc au bout d'un moment je me suis dit bah naturellement il faut que j'écrive dessus parce que c'est comme ça que je vis, et cette histoire de voir toutes les ramifications de la colère en moi, dans ma vie, dans ma santé physique et mentale, ça s'est fait pendant l'écriture justement de « ok, là je vais vraiment partir complètement en apnée là-dedans, je plonge, je ne prends aucune protection et j'y vais, je vois ce que je vais trouver au fond ». Et j'ai trouvé plein de choses très très moches, mais plein de choses très belles aussi. Et à la base, je ne devais pas du tout écrire ce livre-là, j'avais pitché le truc à mon éditeur comme un grand mystère des règles de la colère. Donc je voulais lui faire une espèce d'essai historique sur la colère à travers les âges, dans la fiction, la réalité, machin, nanana. Et en fait, j'avais beau essayer de monter le squelette du truc, poser des paragraphes par-ci, par-là, ça ne fonctionnait pas. Et on s'est vus sur un banc, et je lui parle de tout ça, il me fait « mais tu sais, t'as envie de parler de quoi ?» Je me dis « je sais pas, je suis vénère, j'ai envie de détruire les hommes, je les déteste, j'ai envie de cramer tout le monde. » Il fait « bah écris ça en fait, je m'étais sûre. » Il fait « ouais, ouais, même si c'est un pamphlet de 100 pages pendant lesquelles t'insultes la terre entière, écris-le, on verra ce que ça donne. Ça a même pas besoin de faire 300 pages, bon ça en fait 250 au final, mais vraiment quand j'ai vu l'objet, je fais « oh, j'ai écrit tout ça ?» Parce que je pensais vraiment que j'avais écrit un pamphlet. Et c'est lui qui a complètement... c'est même pas qu'il m'a permis de lâcher les rênes, il m'a enlevé tout mon harnachage, il m'a laissé courir dans la pampa toute seule, comme un cheval sauvage. et en fait, ils ont pratiquement pas changé un mot, et à chaque fois que je lui ai envoyé un extrait, je me disais, bon là, quand même, il va me striker. Non, aucun problème, toutes les insultes sont passées, tous les gros mots sont passés, toutes les métaphores les plus dégueulasses sont passées, j'étais très heureuse, et ça c'est vraiment, c'est à partir du moment où il a retiré cette limite-là, je me suis mise à écrire, mais comme ça m'est rarement arrivé, des espèces de frénésie où je suis en train de regarder la télé, et d'un coup je fais « et je me jette sur mon ordinateur, et je suis assise à moitié par terre, à moitié sur le lit, avec le truc bancal, et j'arrive plus à m'arrêter, et mon mec il me dit « inspiration », je fais « ouais, ta gueule, ta gueule, ta gueule !» Et du coup là il prenait le lead sur tout le reste pour que personne ne me dérange, pour que je puisse continuer à écrire, parce que heureusement j'en ai quand même trouvé un bon. Mais voilà, ça a été un processus très, très intéressant. C'est la première fois que j'écrivais comme ça, Même si j'ai toujours été une écrivaine impulsive, j'ai jamais écrit, j'ai jamais eu tu vois, je suis pas Amélie Nothomb qui se lève tous les jours à 5h du matin et qui écrit pendant 3 heures. Moi, c'est mon cauchemar personnel. Il faut que j'écrive quand j'en ai envie, sinon ça m'intéresse pas. Je déteste la contrainte. Et du coup, là, ça a été parfait pour ce modèle-là, parce que j'étais dans l'impulsivité la plus pure, vu que j'étais dans une émotion impulsive. Et donc, le plus naturel, c'était de l'écrire comme ça. Et donc, je suis très heureuse de la façon dont ça s'est fait, même si maintenant, il y a des moments où je relis des pages comme ça, je suis « c'est de la merde !» Mais le texte ne m'appartient plus, donc c'est pas grave, je m'en fous. Mais c'est, ouais, c'est très intéressant comme processus d'écriture, j'en suis très heureuse.
Et il y a un des paragraphes, enfin un des chapitres de ton livre revient sur un moment où il y a eu un arrêt de la colère. Oui. C'est le petit moment où on pourrait imaginer la petite musique d'ascenseur.
Exactement.
Tout se passait bien. Et donc où est partie la colère ? Elle était en vacances.
Exactement.
Et toi aussi. Donc tu pars en vacances et là tu te rends compte que tu es tellement heureuse en fait que tu ne sais pas si tu vas réussir à écrire de nouveau alors que le livre n'est pas terminé. Cet endroit-là en plus arrive. Enfin, c'est assez génial parce qu'on a toute envie d'aller à Stockholm maintenant. On se dit, mais moi, si je peux être heureuse et ne pas me soucier de tout ce qui te met en colère dans le livre, j'y vais aussi.
Bah, tu m'étonnes.
Donc, c'était tant que ça, ce havre de paix.
Ouais, bah, j'y retourne dans un mois. Donc,
voilà. Okay.
Tellement... Et là, j'ai reçu un message encore il n'y a pas longtemps, comme ça m'arrive très souvent depuis octobre, d'une meuf qui a réservé son voyage et qui part 3 jours toute seule à Stockholm. Donc, vraiment, je suis influenceuse Stockholm. J'ai essayé de me faire inviter par l'office du tourisme, ils ont dit non, par contre on peut vous filer le pass des musées gratos. Bon, ok, c'est déjà pas mal,
ça.
Vous savez qui je suis. Je suis un peu outrée, mais bon, ça viendra peut-être plus tard. Mais oui, c'est vrai que quand j'ai passé cette semaine à Stockholm, j'ai eu une angoisse d'un coup. J'ai refusé d'écrire, de travailler pendant la semaine, ce qui m'était pas arrivé depuis des années, d'avoir une vraie pause. Et d'ailleurs, mon éditeur m'a dit « Prends pas ton ordinateur, si t'écris un mot, je te frappe. » Non, il a pas dit ça.
Oui.
Il a pas dit ça, c'est moi qui reformule. Il ne me menace pas de violence, même pour rire. C'est pas du tout son genre. Et y a un moment où je me suis dit « Mais en fait, ça y est, là, le voyage touche à sa fin. Je vais rentrer, qu'est-ce que je vais faire ? Ok, je vais retrouver ma fille, je vais retrouver mon mec, super. Je vais retrouver mon manuscrit. » Et là, il est où le puits ? Il est où l'encrier ? Je ne trouve plus, il n'y a plus rien, je suis sèche. Et vraiment, je n'avais plus cette impulsion, j'avais plus cette rage d'écrire. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je ne vais jamais le finir, ce livre. Et donc, je rentre à Paris, et au bout de 15 minutes dans l'aéroport, je dis, ah ! Ça y est, c'est là, c'est revenu. Donc, j'ai pu finir mon livre. Et du coup, je vais retourner à Stockholm, maintenant que je vais pouvoir en profiter encore mieux. Mais c'est vrai que ça m'a... Même si je sais que, et je le dis hein, très, très, de façon très transparente, je sais très bien que être une femme à Stockholm, je suis sûre qu'il y a plein de problèmes en vrai, et que du coup, le fait que ce soit pas forcément dans l'espace public, ça rend la chose peut-être encore plus insidieuse, encore plus tabou, encore plus compliquée. Donc je me fais pas d'illusions sur le fait que la Suède est une espèce d'Eldorado féministe, n'est-ce pas ? Surtout avec la montée de l'extrême droite, voilà. Mais pour un voyage d'une semaine et où j'ai passé 80% de mon temps dans l'espace public, c'était une parenthèse extraordinaire où pas un mec ne m'a regardé, touché, sifflé, reluqué, rien. Et il y a eu ce moment fou où un soir, vraiment week-end, tout le monde est sorti, les trottoirs sont pleins. Et je marche sur un trottoir et je vois devant moi qu'il y a un attroupement de 4-5 mecs. Vraiment les mecs, quoi. Les mecs, les mecs. Et je me dis, putain, va falloir que je passe au milieu, comme ça arrive tout le temps à Paris, où vraiment ils s'écartent de ça. Juste pour pouvoir te regarder comme ça et être satisfait de t'avoir vu te recroqueviller. Et je m'avance, et au moment où ils me voient, ils ont vraiment fait « j'étais Moïse ». Ils ont fait « chacun d'un côté du trottoir, ils ont regardé leurs pieds, et je suis passée, et après, ils ont repris leur conversation comme si je n'existais pas. Et je fais « mais ils m'ont même pas touché. Genre, je suis dégueulasse ou... » Et c'est ça le pire, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis dit « mais ils me trouvent moche, parce que j'ai tellement l'habitude d'être validée par ça, que d'un coup, je me dis, comment je sais si je plais maintenant ? Alors que c'est pas du tout par là que ça passe. Et d'ailleurs, les gens à qui je veux plaire, c'est pas du tout comme ça qu'ils me séduisent, n'est-ce pas ? Mais il y a eu quand même cette espèce de flottement de « Est-ce que j'existe vraiment encore ? Est-ce que je suis palpable ?» Donc c'était assez fou. Et c'est pour ça que j'ai très hâte d'y retourner. Après, Stockholm au printemps, ça se trouve, c'est l'enfer. Je sais pas du tout. Peut-être que d'un coup, après une hibernation... Non, c'est toujours cool ? Ok, merci. Bon, parfait. Du coup, j'ai trop hâte.
Oui, parce que on a beaucoup parlé de la colère, mais les raisons de la colère, tu viens d'en parler, c'est le rapport des femmes et des hommes sur cette planète, donc c'est-à-dire l'envahissement des hommes et la disparition des femmes. Et tu reviens comme ça sur des cas spécifiques, donc en effet notre présence ou invisibilisation dans l'espace public, ou surprésence par le regard des hommes, ou en fait il y a quelque chose toujours de la contradiction, en fait, et à chaque fois c'est au regard de ta façon, en fait, aussi de te voir dans l'espace public, que j'ai trouvé hyper touchante. Ce que tu dis, par exemple, à un moment donné, comme ce que tu viens d'exprimer, en fait, d'une certaine manière, on a besoin d'être validé par le regard des hommes quand on veut plaire aux hommes, et pour autant, on ne supporte pas d'être regardé par les hommes. Et donc, y a tout ce truc, en fait, pendant... qui joue sur les deux niveaux, de devoir se dire, ah oui, d'accord, mais en fait, ça veut dire que pour être vraiment... OK, dans l'espace public, il faut que je remonte encore d'un cran, c'est-à-dire de devoir me défaire de ce besoin de validation du regard des hommes pour qu'ensuite, en fait, je ne les remarque même plus, en fait, ouais. Tout simplement. Mais d'où, en fait, l'exemple avec Stockholm qui nous donne très envie, puisqu'en effet, c'est des pays où les espaces publics ne sont pas du tout pensés de la même manière, les pays du Nord en général. Et pour moi aussi y être allée, je pense que j'ai cru que j'avais disparu au bout de... Mais même parce mais que personne, même pas les femmes en fait, mais te parlent.
C'est fou.
Y a personne ne te parle.
Tu croises pas les regards des gens, alors non, vraiment, ils croisent ton regard et un coup...
J'ai regardé un autre être humain.
Et c'est fou. Il y avait vraiment... Et le fait d'être touriste aussi, tu dis, je suis apatride, je suis déshumanisée, et je n'existe pas, je flotte. Et ce que je fais n'a aucune conséquence, et du coup, c'est hyper libérateur.
Ah ben, ça change énormément, en tout cas, du point de vue, surtout en vivant à Paris. Mais ce principe du trottoir, je pense que c'est ma plus grosse colère de 2021-22. Parce qu'en fait, je fais des tests. C'est-à-dire, je ne bouge pas sur le trottoir.
C'est ce que je fais aussi.
Mais en fait, ils ne bougent vraiment pas, les hommes, quoi.
Bah, du coup, moi, j'ai des bleus sur les épaules mais parce que je ne bouge pas.
Et moi, du coup, je suis genre... Vraiment, j'ai l'impression que dans la rue, ça doit être assez drôle, d'ailleurs, parce qu'on doit me voir complètement ruminée avec les boules d'élèves. Mais à chaque fois, je suis encore là tout à l'heure, quoi. Je me dis, mais franchement, pourtant, je suis là, quoi. Enfin, d'où est-ce qu'à chaque fois, on doit se déplacer?
Ouais.
Et c'est systématique, systématique. Et dès qu'on le fait remarquer à quelqu'une ou même à quelqu'un, parce que je marchais avec mon frère, par exemple, et ils n'en revenaient pas, de se dire, mais non, en fait, ils ne bougeront pas, quel que soit... Donc ça, voilà, ça fait partie des moments où j'étais vraiment hyper en colère avec toi sur le livre, de me dire, mais je vais tout fracasser, c'est pas possible.
Ouais, moi, c'est vrai que ça fait des années que j'ai arrêté de me décaler, et en fait, ce que je fais, c'est que je fixe un point juste à côté de leur tête, donc vraiment, c'est comme si je voyais à travers eux, et je ne bouge pas, et le nombre de fois où je me prends des coups d'épaule, mais je m'en fous, j'y vais, et pourtant, vraiment, ma carrure n'est rien d'impressionnant, et l'autre jour, je me suis défoncer le coude. Je me suis défoncé l'épaule avec un coude parce qu'il y a un mec qui était comme ça et vraiment j'ai pas eu envie de je me suis dit tant pis, je vais lui mettre un coup, ça va me faire plus mal à moi qu'à lui, mais au moins j'aurais signalé ma présence et j'aurais signalé que c'était une gêne dans ma vie. Donc après j'étais là comme une couillonne, il a bien appris sa leçon, hein. Alors que vraiment une microseconde après il avait oublié mon existence, c'est sûr, mais bon, mais c'est vraiment, je ne peux pas. Je ne peux plus être passive. C'est ma seule façon d'être activement en colère, même si je me mets en danger, même si, du coup, ça réactive sans arrêt la colère parce que, il ne va rien apprendre. Si je le bouscule, en plus, après, il va me faire une remarque. C'est sans fin, mais je préfère ça plutôt que m'écarter. Ça me rend encore plus folle de les faire gagner à 100%, en fait. Et un jour, je vais me prendre une patate dans la gueule, mais ce sera... Tant pis, hein. C'est la vie.
On va quand même pas te le souhaiter, mais
bon, de toute façon, j'en ai déjà eu, mais
il faudrait trouver des solutions d'armement invisibles,
remettre les épaulettes à la mode mais en titane,
mais comme les rugby players, garçon ou enfin femme ou homme ou autre, mais de se dire quand elles ont ça, une sorte de
c'est les football américain là.
Ah oui,
les
c'est je monte les épaules. Mais,
parce que rugby, justement, c'est attends, il n'y a aucune protection.
Des vrais bonhommes.
Après, on a les oreilles comme ça.
Travers. Bon, moi qui disais que je faisais du sport, vous avez compris que je ne faisais pas du rugby. Hein, mais je vais me renseigner sur cette histoire d'épaulettes. Mais c'est les Totally Spies et tout ça, là, qui ont plein de... dans les dessins
des
animés.
Gadgets,
mais ouais. Moi, je me suis toujours demandé comment on n'avait pas encore des gadgets beaucoup plus foufous que ça. Mais non, mais c'est vrai. Enfin, tout ce qui est imaginé. Je regardais ça avec ma fille il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que je suis à fond dedans. Et je trouvais ça génial où elle sort un rouge à lèvres et c'est en effet un truc, un briquet super chalumeau, là. mais bon, après, comme d'habitude, hein, ce seraient les hommes qui seraient en danger en se promenant dans la rue. Il y aurait des petits boutons, des pressions, des trucs complètement cachés pour les défendre partout, quoi. Enfin bon, bref. Si quelqu'un a envie de développer une ligne Total Spies, la franchise peut être intéressée.
Ouais, enfin, sachant qu'après, tu t'en sers, les flics s'en mêlent, et là, c'est toi qui es coupable parce que tu t'en es servi. Voilà. Il fallait que je crève, donc.
Bon, alors, on va créer aussi un nouveau système de police. On va révolutionner le monde, en fait. Hein,
ouais,
c'est ce qu'on est parti pour faire.
Je crois que c'est le but. Hein.
On blague beaucoup, etc. Mais c'est vraiment aussi le ton que tu as dans ton écriture. C'est-à-dire que quand je dis j'ai pleuré, oui, j'ai pleuré, mais parce que je pense qu'à un moment donné, on se sent tellement attaqué constamment que c'est obligatoire d'avoir les larmes aux yeux et d'être en grande empathie de tout ce que tu racontes. Mais malgré tout, tu as une force et un humour quand même à toute épreuve où je me marrais sur mon balcon, mais me dire... Bah, et je notais en me disant, je vais le raconter. Cet humour-là, j'ai l'impression que tu l'as dans beaucoup de tes projets. C'est quelque chose aussi qui est constitutif de ta personne.
Oui.
Et donc, tu dirais, dans ton équilibre colère-humour, que c'est peut-être l'humour qui sauve, te sauve aussi de cette colère quand même.
Ah bah, de toute façon, l'humour m'a sauvé de la colère et de la dépression. Donc vraiment, deux monstres qui peuvent te dévorer... Et quand tu t'en sors, laisser énormément de dégâts. Et si c'est parce que j'ai été élevée dans l'humour, c'est vraiment une valeur familiale. Bon, après, il y en a un des deux qui était plus dans le principe que dans l'action. Mais bon, bref, mon père était très marrant, mais c'est juste que du coup, moi, je l'étais pas assez. J'étais pas drôle comme il fallait. Bon, bref. Mais pour le coup, dans ma famille maternelle, c'est vraiment l'humour. C'est Jamel Debbouze, quoi. Et c'est justement parce que on a dû exister en tant que maghrébin en France. Tous les frères et sœurs de, enfin ma mère et tous ses frères et sœurs sont nés en France, mais ils ont toujours été les blédards partout où ils allaient. Et du coup, il y a cette espèce de truc de quand on se retrouve entre nous, là, on fait les blédards pour décompresser parce que on se force tellement à ne pas renvoyer cette image-là pour ne pas confirmer les biais de tout le monde que quand on est entre nous, bah oui, là, on sort la babouche et on rigole et on sort l'accent le plus pourri du monde alors qu'il n'y en a pas un qui parle kabyle dans cette famille. Et j'ai vraiment grandi dans ce truc où, en fait, à partir du j'ai compris que l'humour était une valeur familiale le jour où on a eu un énorme fou rire quand on a enterré ma cousine de 13 ans. Je suis putain. Ses parents, mes oncles et tantes, mes cousins et moi, on était en train de chialer de rire dans le cimetière et t'avais tout le monde qui nous regardait en disant mais ils sont cinglés. Et en fait, à chaque enterrement qu'on a fait, on a eu des fous rires. Sauf que celui-là, je me suis dit quand même, ma petite cousine de 13 ans qui meurt d'un cancer, il n'y a pas plus insensé comme meurt, il n'y a pas plus horrible. Et on se retrouve à éclater de rire. Bah ouais, bah voilà. C'est juste ça le secret de ma famille, la raison pour laquelle on est encore là tous, et pourquoi la raison pour laquelle on arrive à être encore à peu près fonctionnel, c'est parce que quoi qu'il arrive, on se marre, et si on se marre pas, on crève. Et moi, c'est vraiment la valeur qu'on m'a inculquée depuis toute petite, et j'ai mis moi-même énormément de temps à comprendre que j'étais drôle. C'est mon mec qui m'a fait réaliser le premier que j'étais une meuf drôle, parce que aucun de mes mecs avant ne m'avait jamais défini comme drôle. Je les voyais toujours se marrer comme des baleines avec leurs potes, et moi je faisais les mêmes blagues, mais puisque c'était moi qui les faisais, c'était moins marrant. Et du coup, ils avaient ce truc un peu condescendant de genre la main sur le genou qui presse un peu, genre moi m'éteindre, moi fermer ma gueule, non mais ça va pas, non. Du coup, ça n'a jamais duré très longtemps. Et c'est vraiment, il y a 5-6 ans, où j'ai compris que j'étais une meuf drôle, et ça, pareil, à moins que tu sois une femme et que t'en fasses ton métier, et là, c'est encore une autre difficulté. Être définie comme femme et drôle, ça va rarement ensemble. Ou alors, c'est la bonne copine marrante, mais genre, c'est son seul truc, quoi. C'est ce qui la sauve. C'est l'éternel célibataire, celle qui est un peu bourrine, un peu bonhomme. Ah, pouette, elle est marrante. Et vraiment, t'as que ça comme option. Alors que moi, toutes mes potes sont super marrantes et tous mes potes mecs sont rigolos, mais c'est pas... Et on est 1000 fois plus marrantes. Et vraiment, à partir du moment où j'ai compris que ça n'avait rien à voir avec une espèce une question de genre, de sexe, de quoi que ce soit, de biologie, de conditionnement quelconque. J'ai dit, putain, en fait, je suis trop marrante. La preuve, vous arrêtez pas de vous marrer depuis tout à l'heure. et vraiment assumer que je suis drôle, l'utiliser et voir l'effet que ça fait. Et du coup, en fait, tu sais, les premiers trucs, les premières fois, on m'a dit « Ah, c'est marrant, quand t'écris là, c'était drôle », c'était accidentel. C'est juste que c'est comme ça que je parle et que j'avais pas encore conscientisé mon humour. Et là, maintenant, je dis « Ok, ça, c'est marrant, je vais mettre cette phrase plutôt que celle-là. » Et ça me rend trop heureuse d'avoir cette conscience de « Là, je suis drôle. » Et c'est une victoire, parce qu'en plus, je me faisais martyriser au collège. J'étais vraiment la moche souffre-douleur qui se faisait taper par tout le monde. Sauf que j'étais déjà super marrante. Et pareil, t'avais tous les mecs super populaires qui faisaient les mêmes blagues que moi. Moi, quand je les faisais, on me jetait dans une poubelle, littéralement. C'était leur grand jeu, parce que je pesais 40 kilos toute mouillée. Et j'ai eu cette revanche à prendre au bout d'un moment de « Putain, mais en fait, j'ai toujours été super marrante. C'est juste vous êtes trop cons, quoi. C'est de votre faute. Vous êtes privé d'une compagnie super cool parce que vous aviez des biais de merde et que je rentrais pas dans vos critères de beauté ou de personnalité. » Et donc aujourd'hui, voilà, je vais avoir bientôt 35 ans. Putain, il était temps. Je peux dire, je suis super marrante. Et ça me rend trop heureuse. Et du coup, l'utiliser pour ce genre de truc, c'est encore plus important pour moi.
Oui, bah, d'autant que l'humour a été aussi accaparé par les hommes pendant 1000 siècles. Ouais. Du coup, c'est encore une fois se réapproprier des codes. Tu parlais des femmes qui en font leur métier, mais ça reste quand même assez rare. Alors, même si je trouve que pour le moment, on a un petit peu plus de stem de peuse, si ça se dit. J'ai l'impression d'inventer plein de mots aujourd'hui. Mais c'est ton, c'est grâce à toi, ça. Ton livre donne envie d'inventer plein de mots, d'avoir cette liberté de création. Mais c'est vrai que l'humour et les femmes, c'est quelque chose de la puissance aussi, parce que faire rire les gens, c'est une grande puissance. Et je me dis, là, tu fais cohabiter deux endroits qui doivent vraiment mettre très mal à l'aise les hommes. Je me dis, tous ceux qui n'ont vraiment pas activé leur questionnement, qui se disent « Ah, peut-être qu'en effet, je ne suis pas l'espèce parfaite qu'on m'a donné, qu'on m'a indiqué que j'étais », ça doit être malaisant à lire.
C'est vraiment tout le mal que je leur souhaite. Mais du coup, ça m'a aussi permis de vérifier que mes potes étaient bien mes potes. Mmh. C'est que quand ils ont lu mes bouquins, ils m'ont dit « Bah, je me suis sentie visée, mais franchement, c'est normal et bien fait pour moi. » Ah, voilà. Ça fait plaisir. Et après, ils en ont parlé autour d'eux en disant « Bah, il faut le dire ça. » Surtout parce qu'éduquer leurs potes. Parce qu'il y a aussi le premier niveau de « Oui, moi, je m'éduque. » En attendant, quand t'as tes potes qui ouvrent leur gueule à côté, tu fais « Parce que tu veux pas faire tâche dans la meute de mal.
Ou dans la malle de meute.
Voilà, dans la malle de meute.
C'est possible.
Et du coup, voilà, c'est encore des trucs que je déverrouille pour moi, pour mieux délimiter mon espace et ma sécurité. Et du coup, à travers ce livre, c'est vraiment, je vois qui sont mes potes. Pour l'instant, ça va, c'est tous validés. Même ma mère. En même temps, ma mère a toujours été validée. J'avais cette peur justement de, parce qu'il y a des moments où en soirée, enfin je raconte les pensées que j'ai en soirée quand je suis en train de parler aux gens et que j'ai mon verre comme ça, je suis ah, trop cool et que je suis en train de m'imaginer les décapiter, je me dis personne va m'inviter en soirée. et en fait non, ils ont tous exactement compris de quoi je parlais, pourquoi j'en parlais comme ça, ce que ça concernait, toutes les histoires sur mon prénom aussi. Il y a certains de mes potes qui sont encore mes potes aujourd'hui qui ont été coupables de ce crime terrible d'avoir fait des blagues sur mon prénom, qu'aujourd'hui je ne pardonne plus. Mais je sais pourquoi ils l'ont fait à cette époque-là, je sais ce qu'ils ont appris depuis, je sais ce qu'ils ont prouvé, et moi-même, tu regardes les blagues que je faisais à l'époque, il y a des trucs sur lesquels on pourrait m'attraper par un t-shirt et me secouer très violemment. Donc je laisse aussi une place à l'évolution et au vrai changement, et pas juste au changement performatif non plus, parce que ça aussi c'est très dangereux. Et voilà, tout ça pour dire je ne sais plus quoi. Oui, mettre les hommes mal à l'aise. Effectivement, voilà, c'est un livre que j'ai pas écrit pour eux du tout, c'est pas eux que je vise. S'ils le lisent et que ça leur plaît, c'est super cool. S'ils apprennent des trucs, c'est super aussi. Mais c'est pas mon public cible là-dessus. Il y a des livres que j'ai faits qui ont plus une portée éducative, comme Le Grand Mystère des Règles, par exemple, où là, vraiment, je vise tout le monde. Celui-là, il est pas fait pour ça. C'est un livre de rassemblement et de « Venez, on souffle entre nous, on râle un gros coup, et après, on repart au combat, mais là, faut vraiment juste qu'on pète des trucs.
» Pour terminer le livre, tu parles de canaliser cette colère. C'est comme je le disais, en fait, la colère peut se retourner contre nous, se retourne souvent contre nous quand elle n'est pas exprimée. Donc toi, en faisant ce livre, je pense que ça a dû largement contribuer à la canaliser et qu'il y a dû avoir un avant-après peut-être intéressant. Mais quand on n'a pas l'envie, la possibilité, le talent d'écrire un livre, quelles sont tes astuces, pour la canaliser quand on sent, toi qui es une experte de la colère, comment peut-on la gérer au quotidien?
Mais non, mais en plus, encore une fois, je vais parler de la fin et le fait qu'il n'y ait pas de happy end. On en a parlé très tôt avec mon éditeur aussi. Il m'a dit, on est d'accord que ton livre, il ne va pas se terminer en mode apaisement. Je dis, oui, non, non, il n'y aura pas de « maintenant, je vais beaucoup mieux, j'ai découvert la méditation. » Et maintenant, et je pense avant tout à ma fille. Et du coup, je suis complètement... je ne suis plus en lien avec mes émotions parce que je ne me concentre qu'à un autre être humain et pas à moi. Non. Je reste un individu à part entière avec mon histoire. Et donc non, je ne me suis pas débarrassée de cette colère, ça c'est impossible, je pense que je serai toujours en colère à différents niveaux, de différentes façons. Par contre, ce qui moi m'a changé un peu la vie, c'est de la partager, d'en parler autour de moi, et d'avoir des gens qui me disent « ah ouais, grave ». Et c'est pour ça que je parle de mes meilleurs amis, et de ces soirées qu'on passe où vraiment on commence en disant « ouais, on prend un petit peu de vin », et à la fin on est « ouais, franchement, merde, ouais, tous des connards !» Et on rentre, et on fait « ah, c'est ça ma méditation, c'est une bonne soirée misandrie, et après ça repart !» Et c'est juste, voilà, ce rassemblement, ces échanges, le fait de savoir qu'on n'est pas seul, que c'est, encore une fois, normal, et putain de légitime, il y a vraiment... peu de choses aussi légitimes que la colère qu'on peut ressentir en ce moment en regardant l'état du monde, parce que merde, quand même un miracle qu'on soit pas encore retourné contre eux, ils devraient être vraiment très heureux d'être encore en vie. Bref, et du coup voilà, c'est juste pour l'instant, je pense que c'est le rassemblement et le côté un peu confessionnal de la colère, de là on arrête les filtres, on arrête les oui, alors je sais que pas tous les hommes, mais il faut dire que quand même statistiquement, tu vois, une femme sur trois, stop, juste nique sa mère les hommes. D'accord, les mères, laissons-les tranquilles, on est d'accord. Nique les pères. Sujet de mon prochain livre.
Ce sera le titre.
Vénère, nique son père. Au bout d'un moment, je vais vraiment être stéréotypée. Mais oui, voilà, je pense qu'il y a vraiment ce truc de il faut trouver son espace safe, quel qu'il soit. Et d'ailleurs, qu'il y ait des hommes dedans ou pas, c'est, encore une fois, un homme, ça peut prendre plein de formes. Donc, c'est même pas une question de genre à proprement parler. Si on parle du système homme, du système patriarcat, qu'on s'entende bien. Mais trouver un espace en dehors de ce système-là où on peut juste se dire les choses sans filtre, arrêter de faire de la pédagogie, arrêter de mettre les formes, arrêter de faire de la politesse pour une fois, malgré l'amour que je porte à cette valeur, et se rassembler et se sentir légitime et se sentir saine dans une colère qui a toutes les raisons d'exister, toutes les bonnes raisons d'exister. Et voilà, et peu importe la façon dont elle s'exprime en fait, et qu'elle soit littéraire, qu'elle soit violente, qu'elle soit racaille, qu'elle soit hautaine, bobo, je m'en fous, peu importe, du moment qu'elle s'exprime et que on est entouré de personnes qui la respectent. Voilà.
Merci beaucoup Taous pour cette discussion.
Merci.
Alors, yeah. Heureuse. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Taous Merakchi à l'occasion de la parution de son ouvrage « Vénère, être une femme en colère dans un monde d'hommes » aux éditions Flammarion. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec La Franchie Podcast.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.